Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de ce podcast. C'est vrai que généralement je ne prends pas la parole, enfin pas de cette manière en tout cas. Mais aujourd'hui c'est assez particulier parce que je reçois une invitée, ce qu'on appelle un guest hein, communément dans la langue française. Mais plus qu'une invitée, une amie et plus qu'une amie, une grande amie. Elle est la première à qui j'ai parlé de l'idée de lancer ce podcast et là elle m'a dit surtout pas, tu vas te faire ratatiner. Et encore une fois, elle avait tort. Bonjour Sabrina.
Bonjour Maxime, ça va?
Sabrina d'ailleurs qui a fait le jingle de ce podcast, enfin de mes deux podcasts, parce qu'il y a aussi, elles ont fait l'histoire sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Donc j'en profite aussi pour la remercier. Ouais.
Bah
Et
merci à toi de m'avoir choisi pour être la voix de ton podcast, Maxime. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, j'ai rajouté une ligne dans mon CV pour dire que je suis la voix du podcast de Maxime Basile.
ah ben je n'avais pas le choix. Donc merci à vous.
Et merci pour cette présentation élogieuse.
Bon, non, contrairement à ce que j'ai dit pour te taquiner, tu m'as beaucoup, beaucoup encouragé. Toi, tu fais quoi du coup?
Eh bien moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Esprit Arabe et qui s'intéresse à la richesse et à la diversité du monde arabe, parce que derrière le monde arabe, il y a des réalités plurielles et c'est ça que j'essaye de montrer à travers des vidéos sur YouTube.
Il faut rajouter aussi, parce que ta modestie ne te permet pas de le dire, que tu es journaliste à Reporters sans frontières, dont tu t'occupes gracieusement du bureau Moyen-Orient, et tu as eu ton portrait dans Télérama récemment.
C'est vrai.
Et j'ai constaté ça avec beaucoup de plaisir. Donc je disais que c'est vrai que je ne prends pas la parole, mais je voulais en profiter pendant que je l'ai pour vous remercier tous de votre soutien, de votre écoute de ce podcast. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Donc je voulais vous remercier et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à vous abonner sur Apple ou sur la plateforme que vous utilisez et à partager, surtout aux gens que vous aimez pas, aux gens que vous aimez aussi, à partager et à noter quelques étoiles. Ça me fera toujours remonter dans les classements. Et donc, ben, on va partir pour les choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons parler avec Sabrina d'un sujet assez récurrent dans l'actualité, les prétendus bienfaits de la colonisation. Mais c'est assez drôle parce que cet épisode va commencer exactement là où le précédent s'est arrêté, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge. C'est assez rare pour être souligné. Donc, on vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à commenter si vous en sentez le besoin. Es-tu prête?
Je suis prête.
C'est parti.
Au crible de l'histoire, Maxime Basile.
Automne 1492, archipel des Bahamas. Génois de nation, marin de profession, Christophe Colomb, après 35 jours de voyage, jette l'ancre près des terres peuplées de personnes à peau rouge et vivant nues, il les appellera les Indiens. C'est la découverte du nouveau continent. Mais chut! Car cet homme qui désirait connaître les secrets du monde mourra en ignorant ses propres secrets. J'ai donné les Indes au roi et à la reine d'Espagne, se félicitera-t-il dans son testament.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnol cette terre que j'appelle San Salvador.
L'Espagne et le Portugal sont alors engagés dans une course à l'appropriation du Nouveau Monde et pour trancher, ils font appel au pape. Ce dernier divise ce Nouveau Monde en deux, une part à l'Espagne, une part au Portugal. C'est le traité de Tordesillas. On croit la question résolue, mais c'est sans compter sur l'arrivée, 20 ans plus tard, d'un trouble fait nommé François Ier. Celui-ci conteste le traité, je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde, tonnera-t-il. Alors, il dépêche Giovanni Verrazzano, puis Jacques Cartier en Amérique du Nord, les Anglais ne vont pas tarder à le suivre, c'est la naissance des colonisations modernes.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique. Article 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par les maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner l'avis à notre procureur général. Les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais. Ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Article 38. L'esclave fugitif. qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et, s'il récidive, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort. Article 44. Déclarons les esclaves être des meubles et comme tels entrer en la communauté.
À partir de ce moment, l'entreprise coloniale prendra plusieurs formes et connaîtra plusieurs phases, mais la fin des dernières colonies françaises a laissé place à un débat serré. Les bienfaits de la colonisation.
La loi qui reconnaît les effets positifs de la colonisation française outre-mer en passe d'être enterrée.
Que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de l'Occident, mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne.
Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord.
Mais sur le plan matériel et concret, de quoi parle-t-on quand on évoque les bienfaits de la colonisation, Sabrina ?
Concrètement, Maxime, tu connais la citation attribuée à l'empereur romain Auguste « J'ai trouvé Rome en briques et je l'ai quittée en marbre ». Eh bien, dans ce cas précis, c'est un peu la même chose, sauf que dans le discours de ceux qui soutiennent l'entreprise coloniale, à leur arrivée, ce n'était pas du bois, c'était du désert, et il y avait tout simplement tout à construire, et non pas reconstruire, rénover ou embellir. L'historien Bernard Lugan, spécialiste de l'Afrique, nous en apprend plus sur ce qu'il considère comme le vrai bilan de la colonisation de ce continent. Selon lui, en quelques années, les administrateurs français ont apporté, je cite, « la notion jusque-là inconnue de la sécurité quotidienne et les médecins ont fait reculer la mortalité due aux maladies et à la malnutrition ». Toujours d'après lui, la colonisation a mis fin provisoirement aux affrontements ethniques dans cette mosaïque de peuples qui a toujours existé. Enfin, il relativise, selon lui, la colonisation a délivré les Africains de l'esclavagisme musulman et l'Europe n'a pas eu l'initiative de la traite des Noirs. Écoutez par exemple ce documentaire de France Actualité qui date de 1942. Il se propose de vous montrer les manifestations des vertus colonisatrices de la France.
Une des plus grandes réalisations coloniales qui ait jamais été entreprise dans le monde est l'aménagement des immenses territoires stériles au nord du Niger. 1 400 000 hectares défrichés, irrigués, mis en valeur. À côté de ces méthodes modernes importées au milieu de l'Afrique par la France, les indigènes gardent parfois leurs procédés primitifs. En voici qui, avec un outil rudimentaire, réussissent à creuser des puits atteignant parfois 34 mètres de profondeur, et cela sans les étayer d'aucune manière. Si la colonie prodigue à la métropole ses richesses économiques, la France lui apporte des bienfaits d'un autre ordre. La France a voulu que son œuvre civilisatrice ne se traduisent pas seulement dans des faits matériels, mais aussi dans le domaine intellectuel et spirituel. L'éducation des jeunes est au premier rang des soucis des colonisateurs. C'est demain, avec le concours de cette génération indigène éduquée et formée par la France, que nous pourrons poursuivre les grands projets qui feront de l'Empire français en Afrique le plus beau fleuron de notre couronne impériale.
À ces arguments, d'autres répondront que oui, assurément, il y a eu des aspects positifs dans la colonisation, mais avant tout pour les puissances coloniales. La colonisation a un temps augmenté le réservoir de soldats pour les mobiliser pendant la guerre, mais aussi augmenté la superficie du territoire et les ressources naturelles au profit de la métropole. Quant à l'éducation, le bilan n'est pas si réjouissant que ça. L'instauration de l'éducation a toujours été limitée à une très faible fraction des indigènes. Autre chose que ce reportage montre, c'est que si réalisation positive il y a, c'est par la force des bras des populations locales. Les faire travailler sur les chantiers de construction est bien une forme d'exploitation et de domination, mais elle est encore différente de sa forme la plus intensive et la plus cynique de toutes, Maxime. L'esclavage.
En effet, l'esclavage a été reconnu comme un crime contre l'humanité en 2001, notamment en raison de la cruauté de la traite des Noirs et des conditions inhumaines de la traversée. La colonisation, quant à elle, ne l'a jamais été, parce que la condamnation pour crime contre l'humanité est une sanction particulière et que la colonisation n'a rien de particulier. Car l'histoire des colonies grecques partout dans le bassin méditerranéen, les colonies romaines essaimées dans toute l'Afrique du Nord, les conquêtes d'Alexandre puis des Arabes, tout ça rappelle que peu de peuples peuvent se vanter de n'avoir jamais colonisé un voisin. La preuve, la jeune République d'Haïti, peu de temps après s'être libérée de la France, franchira en conquérant la frontière de la République dominicaine pour lui imposer une occupation de plus de 20 ans.
Je m'intéressais à la guerre au Cambodge l'autre jour, puis je me suis aperçu que c'était les Vietnamiens qui la faisaient. Pendant 30 ans, moi, j'avais été pour les Vietnamiens qu'on allait faire chier. Dès qu'ils ont été libérés, ils ont envahi le Cambodge. J'avais pas l'air contre.
Les Français des Antilles prendront, avec un peu moins de philosophie, la loi du 23 février 2005 votée à l'Assemblée et qui visait à consacrer ces prétendus bienfaits de la colonisation.
Dès qu'on me méprise, dès qu'on va vivre ma douleur, il faut que je sois là. Et là, la douleur va monter. Parce que je me dis que on peut pas, la France ne peut pas faire ça. On peut pas être aussi irrespectueux.
Face à cette douleur ravivée, le Premier ministre Dominique de Villepin réagit ce matin sur France Inter. Il veut calmer les esprits.
Nous avons besoin d'être enrichis par le regard et les travaux des historiens. Mais première règle, ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas au Parlement que d'écrire l'histoire ou de dire la mémoire.
Le président Chirac finira par intervenir pour faire abroger l'article en question, mais ce duel installé au sommet de l'État est une illustration du dilemme dans lequel la France a vécu par rapport à l'esclavage. La France, dont le sol affranchissait tout esclave qui le foulait depuis un édit de Louis X en 1315, un édit qui profitera aux premiers esclaves noirs, Sabrina.
Oui, à Bordeaux, en 1571, une cargaison d'esclaves africains est libérée, car ayant foulé le sol français, il n'était automatiquement plus esclave. Un édit qui sera un peu moins suivi quand la France devra recourir aux esclaves noirs pour ses propres colonies. Mais c'est aussi en France que naît l'un des premiers mouvements abolitionnistes, la Société des Amis des Noirs. Un an après, plus d'une cinquantaine de cahiers de doléances demanderont l'abolition. Tout ce mouvement donnera lieu en 1794 à une première abolition de l'esclavage qualifiée par la Convention de crimes de lèse-humanité. À partir de ce moment, l'empire colonial français oscille entre transformation et désagrégation. 1804, Saint-Domingue devient Haïti. 1846, les Antilles et la Guyane deviennent des départements français. Et en 1962, c'est dans un discours d'espoir que Charles de Gaulle annonce la fin de l'aventure coloniale française. Les accords d'Évian sont proclamés.
Qui sait même si la lutte qui se termine est le sacrifice des morts tombés des deux côtés n'auront pas en définitive aidé les deux peuples à mieux comprendre qu'ils sont faits, non pour se combattre, mais pour marcher ensemble sur la route de la civilisation.
Si bon Dieu ban l'esprit, c'est pour bon capable sembler. Si bon Dieu ban nous cœur, c'est pour nous capables vraiment. Si bon Dieu ban la parole, c'est pour nous capables parler, pour nous dire tout ça nous dit.
En partant de l'Algérie, la France a laissé derrière elle les traces de sa présence. Dans les rues d'Alger ou encore d'Oran, l'architecture haussmannienne est là pour le rappeler. Au lendemain du départ des Français, les rues ont été rebaptisées, leurs noms ont été arabisés et les autorités se les sont réappropriées. Certains Algériens ont une réaction de rejet quand leurs adversaires cherchent à les heurter en pointant un paradoxe entre leur patriotisme et le fait qu'ils ne doivent leur pays et leurs frontières actuelles qu'à la France et que le paysage de nos jours a été façonné par l'ennemi colonisateur. Mais en réalité, il n'y a rien de paradoxal là-dedans. Tous ces héritages font partie de l'histoire du pays, c'est le témoignage d'une époque passée et ils font partie intégrante de ce qu'il est aujourd'hui. Il ne s'agit pas de gommer les traces laissées par la France, mais de commencer un nouveau départ sur les bases qui ont été posées et de tourner une nouvelle page, Maxime.
Oui, on peut donc constater que l'histoire des sociétés humaines montre que la colonisation n'est pas l'affaire d'un peuple, mais la mode d'un temps, une mode qu'à peu près tout le monde a suivie et un temps aujourd'hui révolu. Dès lors, la notion de bienfait ou de méfait de la colonisation ne revêt aucun sens, car la colonisation est avant tout une entreprise intéressée et les réalisations accomplies sur place ne sont pas des actes de charité, mais l'entretien d'un bien conquis. L'argument du bienfait de la colonisation naît paradoxalement d'un sentiment de culpabilité. Il relève de ce que les historiens appellent une vision téléologique de l'histoire, une vision qui porte à juger les événements d'hier avec les valeurs d'aujourd'hui. Or, désormais, tempère l'historien Marc Ferraud, en dépit de ses séquelles et malgré le néocolonialisme que redoutent les nouveaux États indépendants, la colonisation appartient au passé. Elle relève du domaine des historiens.
Si bon Dieu ban conscience, c'est pour capable juger. pour nous est-ce un cap construit, pour nous est-ce un cap détruit. Avant de juger personne, n'a campé devant glace, n'a vagué si nous semblait. Mon cap construit, mon cap détruit. Mon cap si maillé la justice, ou bien la mort.